Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne. La semaine dernière, nous recevions ici même Alain Lamassoure, qui préside depuis le mois de février l'Observatoire européen de l'enseignement de l'histoire, institué au sein du Conseil de l'Europe, l'institution européenne présente à Strasbourg. Au cours de cette émission, il nous a fait un état des lieux de l'enseignement de l'histoire en Europe très peu rassurant. Mais Alain Lamassoure, avant d'annoncer sa retraite politique en 2019, c'est aussi une carrière bien remplie durant laquelle il aura exercé de nombreux mandats et fonctions. Ancien ministre des Affaires européennes sous Édouard Balladur, puis ministre du Budget dans le gouvernement Juppé, député européen pendant plus de 20 ans, nous lui avons donc proposé de rester avec nous pour une seconde émission, pour cette fois-ci avoir son regard sur l'actualité récente de l'Union européenne. Alors pour commencer, monsieur Lamassoure, quel regard portez-vous sur la gestion de la pandémie par l'Union européenne ?
Alors, première remarque, nous sommes encore en plein milieu de la crise. Si on veut comparer ça à une épreuve sportive, marathon, c'est peut-être un peu long, mais disons c'est un 10 000 mètres. Si on ne prend que les aspects sanitaires de la crise, je pense qu'on évoquera après l'aspect économique, il est clair que l'Europe ne fait pas partie du peloton de tête des pays qui ont su engager de manière efficace la lutte contre la Covid. Dans le peloton de tête, il y a clairement Israël, on commence à avoir maintenant les États-Unis et d'autres pays, l'Europe et il y a le Royaume-Uni. L'Europe au sens de l'Union européenne est un petit peu à la traîne. Mais on a tendance à oublier que, au départ, il y a à peine un an, d'après les traités, d'après le budget européen, il n'y avait aucune compétence, aucun moyen pour l'Union européenne de mettre en œuvre une politique de santé. Et donc, l'Union européenne, à l'initiative de la Commission européenne, de la France et de l'Allemagne, qui ont été très actives aussi, a mis sur pied, a inventé une politique commune. Et ça n'a pas été une petite affaire. Et notamment, s'est lancé dans l'encouragement à la recherche de solutions thérapeutiques et de vaccins, en centralisant les commandes qui étaient assorties d'aide d'ailleurs à l'industrialisation des vaccins une fois qu'ils seraient arrivés à la phase industrielle. Alors, ça entraînait un petit retard. Le fait, en outre, que dans l'ensemble des pays européens n'existe pas la culture du risque qui existe en Israël, qui existe au Royaume-Uni, qui existe aux États-Unis. Chez nous, principe de précaution. Et donc, il y a eu un accord des pays européens pour considérer qu'on ne pouvait autoriser l'usage d'un vaccin que lorsque serait achevée la totalité des protocoles, des trois phases successives d'expérimentation du vaccin. Et donc, cela explique que l'Europe est pris du retard. Voilà. Alors, cela dit, nous sommes à la moitié du 10 000 mètres, nous ne sommes pas dans le peloton de tête. Mais en réalité, tout ça se jugera à la fin de la pandémie. Est-ce que ce sera cet été? Est-ce que ça sera à la fin de l'année? Est-ce que du fait de l'apparition de nouveaux variants, pour lesquels là, peut-être que l'Europe, qui a pris beaucoup de précautions sur les nouveaux variants, sera mieux placée que les autres? Voilà. Mais en tout cas, à ce stade, moi, je donnerais plutôt un satisfecit à la manière dont l'Union européenne a fonctionné, sachant que une très grande partie, pour ne pas dire la plus grande partie des retards, ne provient pas de l'action de la Commission européenne, mais des difficultés et dans certains cas de l'incapacité grotesque des États membres, de certains États membres, de vacciner et d'utiliser les vaccins dont ils reprochent qu'ils leur soient arrivés tardivement.
Ce qu'on peut voir comme succès, si je m'excuse de vous interrompre, ce qu'on peut voir comme succès, c'est peut-être d'avoir évité par cette commande groupée la course au vaccin par tous les États membres, par chacun des États membres.
Évidemment. Imaginons ce que ça aurait été avec une surenchère, avec des bagarres, des interdictions aux vaccins de circuler d'un pays à l'autre, des vols de vaccins comme il y a un an, il y a eu, on en est venu aux mains de manière ridicule, sur un aéroport de Pékin, entre des militaires français et des militaires américains qui se disputaient des masques chinois. Enfin, voilà, c'est le genre de phénomène qu'on aurait eu de manière exponentielle entre les 27 pays européens s'il n'y avait pas eu ce réflexe naturel et cette capacité de la Commission européenne d'avoir au moins une politique commune sur cette dimension de l'épidémie.
Alors, il y avait un deuxième point important, ça a été l'adoption au mois de juillet, le 21 juillet exactement, par les chefs d'État et de gouvernement européens qui s'accordaient sur un plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros destiné à surmonter les conséquences de la crise du Covid. Pour financer ce nouvel instrument, les 27 se sont donc accordés sur un endettement commun, ce qui est relativement